France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 30 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une ce matin, un débat violent, chaotique entre les deux prétendants à la Maison Blanche à 35 jours d'un scrutin qui reste indécis. Extrait, décryptage en direct de Cleveland dès le début du journal après les autres titres.
La situation sanitaire se dégrade en Île-de-France. Tour de vis attendu demain. Inquiétude à la mairie de Paris. Quand les bitcoins financent le terrorisme, 29 personnes interpellées hier en France. Un projet de loi pour interdire la pub de produits trop gras, trop sucrés ou trop polluants. Et puis un film d'animation bouleversant, Joseph, du dessinateur Aurel.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, on se souvient de l'immense élan de générosité après l'incendie de Notre-Dame de Paris il y a un an et demi. Mais où vont les dons? Un rapport au vitriol de la Cour des comptes que nous vous révélons en exclusivité ce matin dénonce un manque de transparence et des incohérences. Le premier président de la Cour, Pierre Moscovici, nous détaillera cela à 7h50.
A tout à l'heure Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec le philosophe et sociologue Geoffroy de la Gannerie. Il publie « Sortir de notre impuissance politique », c'est aux éditions Fayard. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
France Inter.
90 minutes d'un débat tendu entre Donald Trump, candidat républicain crispé, et Joe Biden, candidat démocrate combatif, où certes ont été évoqués les grands sujets, la Cour suprême, la crise sanitaire, les violences policières, mais où les invectives, les railleries et les attaques personnelles ont été nombreuses. Tout le monde sait que c'est un menteur, a lancé d'emblée l'ancien vice-président au sujet de l'actuel locataire de la Maison Blanche, le traitant un peu plus tard de clown. « Il n'y a rien d'intelligent en vous », a rétorqué Donald Trump. Extrait.
Tu viens de dire intelligent, tu as obtenu ton diplôme en étant le dernier ou presque le dernier de ta promotion. N'utilise jamais ce mot intelligent avec moi, jamais. Parce que tu sais quoi, il n'y a rien d'intelligent chez toi, Joe. En 47 ans, tu n'as rien fait. Et laisse-moi te dire ceci, si tu avais été au pouvoir à ma place, eh bien moi j'ai bâti l'économie la plus prospère de l'histoire de notre pays. Et au fait, on est à nouveau sur cette voie.
Avec ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus divisés et plus violents. Quand j'étais vice-président, on a connu la récession, on m'a demandé de la réparer, c'est ce que j'ai fait. Nous avons laissé une économie en plein boom et il a provoqué la récession. Le fait est que j'ai tenu tête à Poutine, que je lui ai dit clairement que nous n'allions pas passer d'accord avec lui. Lui est le caniche de Poutine.
Voilà, et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Cleveland, dans l'Ohio, où s'est déroulé le débat. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Agnès.
C'était donc le premier des trois débats télévisés, à 5 semaines maintenant du scrutin. Est-ce que l'on retient finalement ce matin, Grégory, c'est un débat chaotique?
Oui, vous savez comment Wolf Blitzer, journaliste politique historique de la chaîne CNN, a conclu cette soirée télévisée en disant que ce débat était un embarras pour les États-Unis. Et c'est vrai qu'on n'a pas entendu grand-chose sur le fond. Certes, Donald Trump a pu se présenter une nouvelle fois comme le président de la loi et l'ordre. Certes, Joe Biden a pu critiquer la gestion par Trump de l'épidémie de coronavirus et se poser en rassembleur. D'ailleurs, souvent, le candidat démocrate s'adressait directement aux Américains face caméra. Mais ce qu'on va retenir de ce premier débat, ce sont les échanges de d'oiseaux que vous venez de nous faire entendre, le moment où Biden dit à Trump, est-ce que tu vas la fermer, celui où Trump accuse Biden d'être effectivement la marionnette de la gauche radicale, c'est ça qu'on va retenir de ce débat, pas de vainqueur, Donald Trump a fait du Trump, agressif presque tout le temps, Joe Biden est parvenu à peu près à conserver son calme, même s'il a paru parfois ulcéré, au milieu, le journaliste de Fox News, Chris Wallace, était comme perdu, débordé, le prochain duel, c'est celui des colistiers, Mike Pence contre Kamala Harris, le 7 octobre à Salt Lake City, avec, on l'espère, un peu plus de tenue.
Merci Grégory Phillips, en direct de Cleveland aux États-Unis. Et puis au même moment, le géant du divertissement américain Disney a annoncé la suppression de 28 000 emplois, notamment dans les parcs d'attractions et dans le secteur des produits dérivés.
Il est 7h04, vers un reconfinement partiel à Paris, Agnès?
La question sera tranchée demain, lors du point hebdomadaire du ministre de la Santé, mais les indicateurs sont mauvais. Deux des trois critères pour un passage en zone d'alerte rouge écarlate sont désormais dépassées. De nouvelles mesures devraient donc être annoncées, à l'image de celles déjà mises en œuvre à Marseille. Une situation qui inquiète Anne Souris, adjointe à la mairie de Paris en charge de la santé.
Bien sûr qu'elle est inquiétante. C'est une cinétique qui est exponentielle. J'estime que c'est extrêmement grave d'en arriver une deuxième fois là, sans avoir anticipé cette question-là, alors même qu'on a vu les courbes commencer à remonter dès le début du mois de juillet, et et que à partir de ce moment-là, au lieu de se dire on est dans cette vague-là, il va falloir trouver des solutions, eh bien M. Véran n'a rien dit et que même au mois d'août, il était encore en train de dire il n'y aura certainement pas de seconde vague. Et donc on va encore venir à des mesures de semi-confinement beaucoup plus dures que ce qu'on aurait pu faire si on s'était adapté.
Propos recueillis par Jade Péchira. Au niveau national, plus de 800 nouveaux malades du Covid ont été placés en réanimation en une semaine. Le taux de positivité des tests est aujourd'hui de 7,6% contre 4% il y a un mois. 81 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan global à 31 893 décès depuis le début de l'épidémie. Conséquence de la crise sanitaire, une crise économique qui touche les plus pauvres. Durant le confinement, 1 270 000 personnes ont demandé de l'aide au secours populaire, dont près de la moitié n'avait jamais eu recours à une association. Près d'un quart des Français ont encore du mal aujourd'hui à manger sainement, selon le Secours populaire qui publie son baromètre annuel. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. La lutte contre le financement du terrorisme avec une série d'interpellations hier en France. 29 personnes âgées de 22 à 66 ans placées en garde à vue, 55 domiciles perquisitionnés. Selon le parquet national antiterroriste, il s'agit là d'un vaste réseau de financement du terrorisme grâce, Charlotte Piret, à la monnaie virtuelle Bitcoin.
C'est un nouveau système d'envoi d'argent en zone irako-syrienne qui est apparu il y a quelques mois. Cette fois, il n'est plus question de mandat Western Union, comme c'est habituellement le cas, mais de crypto-monnaie, des coupons de Bitcoin achetés en bureau de tabac en France, pouvant aller jusqu'à 150 euros, et finalement remis de manière difficilement traçable à leurs destinataires en Syrie. Ces destinataires, justement, pour certains, des femmes et des enfants, dans des camps, celui de Roj notamment. Hier, 27 membres de familles françaises ont ainsi été entendus, dont 6 d'entre eux sous le régime de la garde à pour des envois d'argent à leurs proches afin de les aider à se nourrir. Certaines mères n'ont plus qu'un sac de riz, s'inquiètent les familles, et dans les camps, même l'eau se paye. Mais le gros de ce dossier concerne les 23 personnes actuellement en garde à vue, soupçonnées d'avoir participé au financement de djihadistes français toujours sur place et dans la clandestinité. Avec au cœur de ce réseau, deux hommes partis en Syrie dès 2013, ils avaient alors à peine 18 ans. Ce sont eux qui, selon le parquet antiterroriste, ont mis en place ce réseau de financement qui a permis de faire venir de France plusieurs centaines de milliers d'euros.
Le principal suspect dans l'attaque de vendredi dernier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris a été mis en examen hier et écroué pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Cet homme né au Pakistan il y a 25 ans a reconnu les faits, affirmant être passé à l'acte après avoir regardé de nombreuses vidéos en provenance du Pakistan contre la republication des caricatures de Mahomet.
Il est 7h08 au Liban. Le Hezbollah a réagi hier soir, Agnès, aux propos très durs d'Emmanuel Macron.
On se souvient, le président français avait parlé de honte et de trahison, fustigeant la classe politique libanaise incapable de s'entendre pour former un gouvernement. Le leader du Hezbollah a donc fini par réagir, et s'il dit soutenir l'initiative française pour tenter de résoudre la crise libanaise, il appelle Emmanuel Macron à revoir le ton et la méthode. Correspondance à Beyrouth, signé Aurélien Colli.
Fidèle à son habitude, le Hezbollah a pris son temps pour répondre. Il l'a fait par la voix de son chef qui vit dans la clandestinité à Beyrouth et dans une longue prise de parole retransmise sur sa chaîne de télé. Les intimidations doivent s'arrêter, nous rejetons les accusations de trahison et nous condamnons ce comportement condescendant, a insisté Hassan Nasrallah, en appelant Emmanuel Macron à ne pas se comporter en chef d'État du Liban et à changer d'approche, pas d'ultimatum et surtout pas de pression pour imposer un gouvernement de fait accompli dans lequel les partis chiites n'auraient aucun levier, alors que leurs adversaires sunnites ont les mains libres, puisqu'au Liban, le Premier ministre est toujours sunnite. On nous a demandé de livrer le pays au club des anciens premiers ministres sunnites et en cas de refus, on subit la pression française et on nous fait assumer la responsabilité du blocage, a encore résumé le chef du Hezbollah, en accusant aussi ses deux grands ennemis, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, d'avoir savonné la planche de la France. Washington à coup de sanctions, Riyad avec un discours du roi devant l'ONU la semaine dernière, faisant assumer au Hezbollah la responsabilité de l'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Les publicités pour le Nutella et les SUV seront-elles bientôt bannies du petit écran? C'est le sens de la proposition de loi que va déposer aujourd'hui le député écologiste Mathieu Orphelin devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Un texte qui, évidemment, provoque des remous dans le milieu de la pub, Sébastien Sabiron.
Interdire la pub pour les produits trop sucrés, les destinations touristiques lointaines ou les grosses voitures diesel. Fausse bonne idée, estime Laurent Habib. Il préside l'association des agences conseil en communication.
Il faut laisser la publicité jouer son rôle. La publicité, c'est elle qui donne envie. c'est elle qui crée du désir, c'est elle qui crée de la confiance et c'est elle qui accélère les transformations de la société. Et la Convention citoyenne, elle fait de la publicité un bouc émissaire au lieu de responsabiliser et les publicitaires et les gens dans le sens d'une transition écologique forte.
Et d'évoquer un secteur déjà fragilisé par la crise sanitaire. 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires perdus cette année pour la publicité, sans compter les secteurs qui en dépendent comme de nombreux médias. Pour Mathieu Orphelin, député du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, il n'est pourtant pas question d'interdire la pub, mais de la faire évoluer.
Ceux qui veulent aujourd'hui présenter toujours les choses de façon clivante en disant que là, ce serait mettre en danger tout un tas d'industries, des dizaines de milliers d'emplois perdus du jour au lendemain, etc. Tout ça n'est pas sérieux. Trouvons ensemble ces chemins pour réduire la publicité sur les produits les plus polluants. Tout ça peut se faire progressivement.
En France, le secteur de la publicité représente 250 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects.
Sébastien Sabiron. Un tournoi dévastateur pour le tennis français. Gaël Monfils et Richard Gasquet éliminés dès le premier tour à Roland-Garros. Idem hier soir pour Pauline Parmentier, qui tire sa révérence dans le froid la nuit et devant des tribunes quasi désertes. Élimination également de Kristina Mladenovic, déstabilisée par une faute d'arbitrage. 60% de l'équipe tricolore n'a pas passé ce premier tour.
7h11, les sorties ciné du mercredi. Agnès avec un bijou d'animation.
Le trait reconnaissable entre tous est celui du dessinateur Aurel, qui croque habituellement l'actualité dans Le Monde et Le Canard Enchaîné. Changement de registre dans ce premier film qui raconte l'histoire de l'artiste espagnol Josep Bartoli, combattant du franquisme, déporté en France et passé par les camps de concentration. Un parcours hors du commun pour un film rempli de poésie. Corinne Pellissier. Quelles que soient les épreuves, il a toujours continué à dessiner. Arrivé en 1939, Josep Bartoli a tout documenté. La vie des combattants contre le franquisme, celle des exilés dans les camps en France, affamés, battus, humiliés, des silhouettes tendues aux contours très réalistes, griffonnées parfois sur des tout petits morceaux de papier. Un parcours incroyable qu'a voulu raconter le dessinateur de presse Aurel dans ce tout premier film.
1939, ça te dit quelque chose ?
On dit assez facilement et un peu trop rapidement à mon avis, en tout cas pour ce qui est de la partie des dessins dans les camps, que c'est un formidable témoignage. Je suis convaincu que c'était surtout un élément de survie pour Josep. Il a dessiné pour pas devenir fou et pour survivre.
Le résultat à l'écran est saisissant. Deux traits qui régulièrement se juxtaposent. Celui d'Aurel et celui de Josep. Mélange de style, d'ambiance, de couleurs pour évoquer les différentes périodes de la vie de l'artiste. La vie des camps, mais pas seulement. Josep Bartoli aura aussi été le compagnon de route de Frida Kahlo, puis de Jackson Pollock à New York. On découvre enfin cette amitié avec le narrateur du film, un gendarme français prénommé Serge, un personnage de fiction plein d'empathie qui redonne foi en l'humanité dans ce paysage souvent féroce. Et vous retrouverez la voix de François Morel ce film d'animation Josep d'Aurel qui sort aujourd'hui sur les écrans.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom d'Inter sur le pari de l'hydrogène 100% français et décarboné.